Chapitre 2. Le simple prêtre de province qu'avait été le curé de Morteau ne s'était guère douté, en achetant cette naissance du Christ d'un confrère besogneux, comme j'ai su depuis, qu'il suspendait au mur de sa chambre une image de piété destinée à s'associer à un drame moral comme celui que je traversais, et capable en même temps de rendre de la force à l'humble servante qui en avait hérité. Tout bon chrétien que je suis devenu, je ne crois pas à cette action directe des morts sur les vivants, à laquelle la dévotion de cette âme primitive faisait appel. De l'entendre exprimer cette foi si profonde me fut cependant un réconfort. J'en avais besoin dans la démarche que j'osais entreprendre. Je ne réalisais mon insensée témérité qu'à l'instant où je me trouvais introduit dans le cabinet de travail du redoutable partisan dont j'allais implorer l'aide médicale. Mais était-il encore un médecin, un pitoyable guérisseur de la misère humaine, le dur personnage qui se tenait là dans le silence de la nuit, assis à une table encombrée de dossiers? Voilà de nouveau un détail que j'ai su depuis. Les Jacobins avaient organisé leur police secrète en un petit nombre de circonscriptions auxquelles présidaient les plus sûrs de leurs adeptes. Ces inquisiteurs inconnus, et qui, pour la plupart, n'exerçaient aucune fonction apparente, ont été les vrais dictateurs de ces terribles années. Un Danton, un Saint-Just, un Robespierre pliaient devant eux. De sa chambre de Morteau, Raillard avait de la sorte sous sa surveillance toute la Franche-Comté. Il venait sans doute de recevoir un document qui satisfaisait sa haine furieuse contre les ennemis de la Révolution, car une joie sauvage éclairait son front lorsqu'il se retourna pour me dévisager. Par quel mystère une physionomie comme celle-là, si intelligente et si fière, pouvait-elle s'associer à cette besogne de haine et de sang? Comment ses yeux, d'où émanait une telle ardeur d'enthousiasme, se consacraient-ils sans en verser des larmes de remords à des enquêtes d'ignobles mouchardises? Mon intuition ne m'avait pas trompé. Raillard n'était ni un jouisseur comme l'immonde Danton, ni un envieux comme le sinistre Robespierre, ni un bas coquin comme ce drôle de Fouquier-Tinville. Il était de bonne foi dans sa criminelle aberration. Il croyait vraiment régénérer la France en la purifiant de ce qu'il considérait comme l'élément empoisonné de la vie nationale. Faire guillotiner un aristocrate, c'était pour lui une opération légitime, pareille à celle qu'il avait si souvent exécutée dans sa profession première, l'amputation d'un membre gangréné. C'était sa mission en ce monde, sa pensée fixe, que cette monstrueuse mutilation du pays, où il voyait un redressement. Il m'accueillit en effet du ton de quelqu'un qui n'a pas assez de temps pour une tâche de conscience. « Je suis occupé, citoyen, me dit-il, très occupé. Je travaille pour la patrie. Si tu as quelque chose à me communiquer qui puisse servir la nation, fais vite. » « Ma femme est mourante, lui répondis-je simplement. Et le docteur Couturier est absent. On m'a envoyé chez vous. »« Qui ont ?» répliqua-t-il d'une voix dure. Cet appel à son métier lui était odieux. Le « vous » que j'avais employé par habitude ne lui déplaisait pas moins. « Et toi-même, continua-t-il, qui es-tu ?» Mon général, regard ne se trouva pas sous le sien. Pourtant, ses prunelles étaient terribles à soutenir. La perspicacité de l'homme habitué au diagnostic s'y devinait, mise au service du fanatisme le plus passionné. Mais je venais de revoir mentalement la scène de tout à l'heure. Ma femme à l'agonie sur ce grabat que dominait le tableau de la naissance du Christ, avec sa muette éloquence, la Bouvron tremblante à la seule idée de ma visite chez le bourreau de son maître. Manquer de sang-froid, c'était trahir Henriette et mon hôtesse. Ce fut donc avec le calme le plus absolu que je sortis de ma poche le chiffon de papier qui me faisait Suisse et que je débitais mon histoire. Raillard m'écoutait en m'enveloppant, en me perçant toujours de ses formidables prunelles. Leur éclat bleu faisait penser à la dureté coupante de l'acier. Quand j'eus fini, il me demanda, non moins brusquement, « Tu es arrivé à mordre ce soir, et où as-tu couché hier ?»« Près de Besançon, » répondis-je, « je ne sais pas le nom de l'endroit. » J'étais arrivé par la direction opposée. « Et avant, à Besançon, et à quelle auberge ?» En me posant ces questions, sa main s'était avancée vers la table. Je compris que ses soupçons étaient déjà éveillés. Un des papiers épars devant lui contenait peut-être l'indication de notre départ et notre signalement. La grossesse avancée de ma compagne la désignait trop. Je ne connaissais le nom d'aucun hôtel à Besançon. J'étais perdu, cependant, si je me troublais, alors je répondis « T'es à l'hôtel de la Poste ». Quel soulagement, lorsque Raillard me répondit à son tour. « Et ici, où es-tu descendu ?» Il y avait donc un hôtel de la Poste à Besançon, comme je l'avais imaginé à tout hasard. Fort de ce succès, j'osais nommer la Bouveron en racontant un roman tout mêlé de vérité, que ma chaise avait cassé un moment de la route, que j'étais monté dans la voiture de Madame Poirier, que cette femme nous avait déposé chez sa demi-sœur. Tout cela n'était pas bien vraisemblable, mais quelque chose était plus invraisemblable encore. L'audace de ma présence volontaire chez le chef de la police secrète des Jacobins, si je mentais. Raillard avait froncé les sourcils et son visage était devenu comme noir quand j'avais mentionné mon hôtesse. Il chercha une feuille parmi des centaines d'autres qu'il lut tout bas, en me regardant par intervalle pour comparer les détails donnés par son correspondant. Et était-ce une circulaire dénonçant mon départ de Fleury ? Le signalement se trouvait sans doute avoir été mal fait, et mon passage par Besançon contredisait les autres indications. L'instinct de défense qui se développe chez nous, à notre insu, dans les heures de danger, m'avait fait deviner le piège tendu par cette question si simple sur mon itinéraire. Ce même instinct m'avertit que le Jacobin hésitait et qu'une impression forte le déterminerait dans un sens ou dans l'autre. « Mais tu vérifieras ce que je t'ai dit demain, » repris-je sur le même ton que lui, rude et brutal, et en employant le tutoiement civique qu'il avait adopté avec moi. « Pour le moment, pense que chaque minute de retard peut coûter la vie à une femme. » Et je commençai de lui rapporter les symptômes que j'avais observés, avec d'autant plus d'insistance que, dès les premiers mots, je vis distinctement le médecin se réveiller en lui. On n'a pas impunément exercé un métier toute sa vie durant. Au fur et à mesure de mes indications, ce métier revenait, remontait en lui des profondeurs de ses anciennes habitudes. Il allait s'établir une lutte entre le politicien sectaire qu'il était devenu et le physiologiste de jadis. C'était sur la malade qu'il m'interrogeait maintenant, sur son âge, son tempérament, ses habitudes, ses antécédents, la date de notre mariage. Mais je remarquais que, peu à peu, sa physionomie changeait d'expression. Elle s'humanisait et se détendait. Quand enfin il me dit « Eh bien, bon, allons, il n'y a pas en effet de temps à perdre. » Il avait oublié, s'il l'avait reçu, la note qui lui annonçait la disparition du ci-devant duc de Fleury avec sa femme enceinte de plusieurs mois. J'avais souvent constaté cette sorte de dualité dans les quelques révolutionnaires que j'avais approchés. J'avais discerné chez tous des réapparitions de leur personnalité d'avant 89. Mais jamais comme chez Raillard. Quand, une demi-heure plus tard, il s'assit au chevet de ma femme pour se rendre compte de son état, le jacobin avait disparu totalement. Il ne restait plus que le praticien. On eût dit qu'il avait oublié, de la manière la plus complète, dans quelle maison il était et le rôle qu'il avait joué dans l'arrestation de M. François. Il s'adressait à la Bouveron pour lui demander du linge, un bassin, de l'eau chaude, comme s'il eût été une religieuse de l'hôpital dans une salle de chirurgie. Il ne remarquait même pas qu'elle ne lui répondait point et qu'en lui tendant les objets, les doigts de la servante du curé, guillotinée, frémissaient d'horreur. « Je redoute tout si l'éclampsie éclate, m'avait-il dit. Il faut provoquer la délivrance. J'ai eu raison d'apporter une botte d'instrument. » Il pouvait être minuit quand il m'avait tenu ce discours, tout en introduisant, avec cette énergie délicate qui caractérise les vrais médecins, un coin de mouchoir entre les dents de la patiente, afin d'éviter, m'avait-il dit encore, les morsures de la langue. Quel souper réveillon, que le morceau de pain noir et le bol de café apporté pour soutenir nos forces, à l'accoucheur et à moi, par la pauvre Bouveron. À 10 heures du matin, le travail durait encore. L'accoucheur m'avait ordonné de me tenir dans une pièce voisine pour que mon émotion, qui était atroce, n'eût son contre-coup ni sur lui ni sur la malade. Dieu, la dure nuit que je passais là. Enfin, un dernier cri de ma pauvre femme, suivi d'un silence, m'avertit que le suprême effort avait eu lieu. J'entendis presque aussitôt la voix de Raillard m'interpeller. Il avait cessé de me tutoyer depuis qu'il n'était plus vis-à-vis de moi qu'un médecin. « Un garçon !» s'écria-t-il. « Eh, vous avez un gros garçon. Est-il vivant, ce petit crapaud? Tu m'as coûté bien du mal, morveux, mais tu feras un gaillard robuste. » Ses bras ensanglantés me tendaient de mon fils aîné. Il ajoutait, en nettoyant ce lambeau de chair où palpitait déjà un homme, « Et la mère aussi vivra pour nourrir. Elle vivra, j'en réponds. Oh, mais j'ai eu bien peur. » Et ce coupeur de tête, avec un sourire de triomphe ému, pour proclamer cette victoire sur la mort. Oh, inexplicable contradiction du cœur de l'homme. Raillard nous avait quittés vers midi, après avoir donné les instructions nécessaires, en annonçant qu'il reviendrait sûrement vers le soir avec son collègue couturier. Il n'eut pas plutôt passé le seuil de la porte que la Bouveron me supplia de nouveau. « Oh, sauvez-vous, monsieur, qui ne nous retrouve pas. C'est de voir souffrir madame comme elle souffrait, qu'il a un peu ému. Mais quand il la sera guérie, il ne connaîtra plus rien. Il avait soigné M. François aussi dans le temps, et très bien. Et puis, vous savez ce qu'il lui a fait. Sauvez-vous. Il ne pourra toujours pas envoyer madame en prison dans l'état où elle est. Mais vous, comment voulez-vous que vous lui échappiez quand il a vu cela ?» Et elle me montra sur les linges que j'avais pris dans le havresac comme plus fin pour le donner à l'opérateur, une couronne ducale brodée à même la toile. Dans la précipitation de notre fuite, Henriette et moi avions oublié ce détail implacablement révélateur. À cette simple remarque de mon hôtesse, mon sang se glaça. Une seule espérance me restait. J'avais vu tour à tour apparaître en Raillard deux hommes si différents, selon que je m'étais adressé au démagogue ou au médecin. Deux moralités fonctionnaient si contradictoires. Il avait sans aucun doute remarqué ses couronnes en maniant ses linges, dont il avait déchiré lui-même quelques-uns. Il avait pourtant agi comme si de rien n'était. C'était là une chance de salut qu'il se considérait comme obligé de ne pas utiliser au service de sa besogne politique. Un renseignement surpris dans sa besogne d'opérateur. En tout cas, et que le jacobin dut ou non se conformer à ce scrupule d'ordre professionnel, je ne pouvais pas, moi, abandonner ma femme et mon enfant ainsi. Je fis donc taire la Bouveron et j'attendis au chevet de la couchée le retour annoncé de ce personnage envers qui j'éprouvais des sentiments plus contradictoires encore que ne l'avait été sa conduite. Il avait sauvé ma femme d'une mort imminente en la délivrant. Sans son intervention, mon fils serait mort dans le sein de sa mère. Et ce sauveur était le plus féroce ennemi de toutes mes idées. Il avait fait tuer par centaines des nobles comme moi, des prêtres comme l'abbé François. Demain, peut-être, monterai-je à l'échafaud à cause de lui. Il me faisait horreur, et son dévouement de cette nuit m'attendrissait à son égard, quoique j'en eusse. L'énigme de cette double nature m'épouvantait en même temps comme une difformité monstrueuse. J'y ai bien souvent pensé depuis lors, et j'ai détesté davantage la révolution, toutes les révolutions. Leur pire malheur est celui-là, d'un bourgeois qui eût été comme Barnave un bon avocat, comme Bailly un bon académicien, comme Collot d'Herbois un bon acteur, peut-être comme Louis David un bon peintre, comme ce Raillard un bon médecin. Elles font un criminel par égarement d'orgueil, en le laissant libre de tenter l'application de ses utopies à même la vie, à même les autres hommes. En vacant auprès de ma femme et de mon fils au menu soin que notre redoutable bienfaiteur de cette nuit et de cette matinée avait indiqué, je méditais sur ce problème de la solution duquel tout mon avenir dépendait. Qui l'emporterait dans cette nature d'une effrayante ambiguïté? Malgré moi, quand je me trouvais trop accablé de sombres pressentiments, je revenais à ce petit tableau religieux, dont la composition, si simple et si chargée de sens, m'avait rendu la veille le courage d'aller droit au danger. Je me disais que le prêtre dont nous occupions la chambre avait dû contempler aussi cette toile avec la volonté d'en absorber en lui tout l'esprit. Je me forçais à prier mentalement devant cette croix dessinée sur ce mur par cette ombre des barreaux, comme si c'eût été la vraie croix, l'enfant endormi, le vrai sauveur, et j'attendais. Vers 4 heures, Raillard parut, comme il l'avait annoncé, accompagné d'un autre homme qui était le docteur Couturier, revenu de son expédition nocturne, et dans les mains duquel il allait remettre la malade. Il me suffit d'une seconde pour comprendre que la Bouveron ne s'était pas trompée. Raillard savait qui j'étais, et déjà le médecin avait cédé la place aux Jacobins. Pas tout à fait encore, puisque, au lieu de m'avoir dépêché ses estafiers, il était venu lui-même avec son confrère. Il ne m'adressa pas la parole, mais je retrouvais dans ses yeux clairs ce sinistre reflet d'acier de notre première rencontre. Couturier, lui, avait une honnête physionomie d'officier de santé, dont l'expression habituelle devait être la bonhomie craintive. Visiblement, il tremblait devant Raillard. Il avait été son concurrent timide avant 89. Depuis, il était son suppléant épouvanté, en attendant qu'il devînt sa victime. Il n'était en aucune manière son complice. Je l'aurais deviné rien qu'au salut par lequel il répondit au mien, alors que la raideur significative de l'autre ne laissait aucun doute sur ses sentiments à mon égard. J'avais pris le parti, décidé à tenir mon rôle jusqu'au bout, de me présenter moi-même. À m'entendre proférer les syllabes de mon nom supposé, Raillard esquissa un geste qu'il réprima aussitôt. Il venait de voir les yeux de la malade fixés sur lui. Le médecin avait de nouveau dompté le révolutionnaire. Il allait le dompter encore, après quelle lutte intérieure. L'événement m'a permis d'en mesurer l'intensité. Je m'étais retiré pour permettre à ces messieurs de procéder à une consultation qui ne dura pas moins d'une longueur. Et je ne fus pas peu étonné, quand la porte se rouvrit, de voir le docteur Couturier reparaître seul. Royer est parti par l'autre sortie, me dit-il. Puis, à voix basse, comme s'il eût appréhendé d'être entendu par le terroriste à travers l'espace, Monsieur, continua-t-il, je ne veux pas savoir qui vous êtes, mais soyez sûr que Rayard, lui, le sait. S'il ne vous a pas fait arrêter aujourd'hui, c'est que le devoir médical l'en a empêché. Devant son insistance à me demander si je croyais que la malade puisse supporter une grande émotion sans être reprise de grands accidents nerveux, j'ai compris qu'il se faisait un scrupule, ayant été appelé auprès d'elle comme médecin, de lui infliger une secousse morale qui risquerait de la tuer. Oh, c'est un homme très étrange et qui n'est pas ce que l'on croirait d'après certaines choses. Il y a 5 ans seulement, il n'avait jamais fait que du bien à Morteau. Même à présent, voyez, par souvenir pour sa femme, il n'a pas permis que l'on touchât à rien ici, dans cette maison que l'ancien curé a léguée à sa servante. Et il a fait guillotiner Monsieur François, interrompis-je. Ah bon, on vous a raconté. Oui, c'est abominable. Il répète, abominable. Mais Rayard a cru que c'était son devoir. Il est persuadé que l'on assurera le bonheur de l'humanité pour toujours avec certaines exécutions. Bon, d'ailleurs, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de vous. Tant qu'il croira votre femme en danger, il vous épargnera. Ensuite, Il avait hoché la tête d'un geste sinistre. Merci, monsieur, lui répondis-je en lui serrant la main. Je crois deviner que vous avez exagéré certains symptômes observés chez la malade pour impressionner monsieur Rayard. À moi, vous direz la vérité. Ma femme est-elle vraiment en danger? Non, je ne le crois pas, répliqua-t-il. Contrairement à monsieur Rayard, je suis persuadé que le système nerveux est très intact et qu'aucun accident cérébral n'est plus à craindre. Voyez-vous qu'elle pourrait partir d'ici cette nuit sur une civière? Demandai-je brusquement. Ce serait bien dangereux, répliqua-t-il après un instant de réflexion. Oui, bien dangereux. Mais est-ce absolument impossible? Insistai-je. Impossible, non, fit-il après un nouveau silence. Sauvez-vous plutôt seul, ajouta-t-il. Ah non, la laisser entre les mains de cet homme pour qu'une fois guéri, il lui fasse couper le cou, m'écriai-je. Jamais. Bon, oui ou non, le considérez-vous comme capable de l'envoyer à la guillotine? Quand il ne verra plus en elle une malade, surtout si je me suis échappé, répondez. Oui, répondit monsieur Couturier. Puis, comme effrayé de sa propre audace, il prétexta la nécessité de retourner auprès de l'accouché, faire un pansement avant la nuit. Quant à moi, mon parti était pris. Si Rayard m'avait épargné, c'est qu'il était bien sûr que je ne m'enfuirais pas seul. Et dans cette certitude, il était probable que la surveillance de la maison ne serait pas très étroite. Sitôt le docteur parti, j'obtins de Mademoiselle Bouvron qu'elle me donna l'adresse de quelqu'un sur lequel je puisse absolument compter. À la nuit tombante, je m'échappai par une fenêtre de derrière qui donnait sur une étroite ruelle, après avoir constaté qu'il n'y avait, pour épier mes allées et venues, qu'un seul individu attablé dans un cabaret à quelques pas de la porte. À prix d'or, j'obtins de l'homme chez qui la Bouvron m'avait envoyé qu'un de ses camarades et lui se trouvassent dans la ruelle en question vers minuit, avec une civière. Quand ils furent là, je réveillai ma femme, que je mis en quelques mots au courant de mon projet en lui disant la vérité. Et ce qui me rend ce tableau de la nativité si cher encore, c'est que cette créature héroïque me demanda seulement 5 minutes pour faire une suprême prière, si elle devait passer dans cette fuite, et elle la fit, tournée vers cette image de la Vierge et du Sauveur. Je regardai une dernière fois dans la rue. Le cabaret était toujours éclairé, mais l'espion dormait, les bras sur la table et la tête sur les bras. Ce pouvait être un sommeil simulé. J'étais dans un de ces moments où l'on hasarde le tout pour le tout. La civière que nos complices s'étaient procurée chez le fossoyeur, un autre fidèle de la mémoire de M. François, mais quel augure, fut introduite par la fenêtre. Nous y plaçâmes la mère et l'enfant et nous la sortîmes de même. Il était convenu que si nous rencontrions une patrouille, les porteurs diraient qu'ils allaient avec une malade à l'hôpital. Je devais les rejoindre sur une route où Mademoiselle Bouvron me conduirait une demi-heure plus tard. La ville n'étant pas close de murs, cette évasion pouvait s'exécuter par un jardin abandonné de ses propriétaires. Il y avait 4 de 9 chances contre une pour que nous puissions prier. Les médecins, à qui j'ai raconté depuis ce tragique épisode, m'ont tous dit que la mort d'une femme accouchée de la veille était, non pas probable, mais certaine, dans des circonstances pareilles. Il n'en est pas moins vrai que le lendemain midi, je me trouvais avec Henriette dans une chambre d'un petit village de la frontière suisse. Elle couchée, son fils suspendu à son sein, et vivante, bien vivante, et l'enfant vivant, bien vivant. La Providence avait permis que ma folie fût une sagesse. Nous étions sauvés. Je viens de regarder ce tableau de la Nativité une fois encore, après avoir repassé en esprit les heures effroyables de ce Noël 1793, et j'ai dit devant lui une prière pour les âmes des 5 personnes qui payèrent de la vie leur charité envers nous. Le docteur Couturier d'abord, puis Mademoiselle Bouvron, Madame Poirier, enfin Jean Nadeau et Louis Fauvertex, les porteurs de la civière. Leurs noms doivent vous rester à jamais vénérables, mes enfants, car c'est sur eux que la colère de Rayard s'exerça quand il sut que sa proie lui avait échappé. L'implacabilité avec laquelle il fit emprisonner, juger et exécuter même son confrère d'hôpital, même la sœur de lait de sa femme, atteste que cette conscience faussée prétendit expier ainsi sa faiblesse d'un moment, devenue à ses yeux un crime de lèse-nation. Il ne s'est pas pardonné de ne pas m'avoir fait moi-même arrêter, sitôt découvert. Je viens de prier aussi pour lui, et que ses forfaits lui soient pardonnés, à cause de cette faiblesse, et après tout, de sa sincérité. Je l'aurais certes envoyé à l'échafaud, comme on a fait justement après la chute de Robespierre, mais je l'aurais condamné sans le mépriser, et je ne le méprise pas encore aujourd'hui, je le plains. Bon, je suis sans doute le seul au monde à éprouver ce sentiment. Cet homme de tant de bonne foi a laissé à Morteau et dans tout le pays du Doubs un souvenir exécré. Et quand je suis revenu dans cette petite ville au retour de l'émigration, son nom n'était prononcé comme de son vivant qu'avec épouvante. J'avais entrepris ce voyage pour retrouver les traces de mes sauveurs. Et c'est là que j'ai appris leur supplice. J'ai été récompensé de ce pèlerinage par la découverte chez le fils de la mère Poirier de cette toile dont il avait hérité. Ce pauvre paysan me céda cette relique que j'ai eue toujours avec moi depuis. Je veux qu'elle ne vous quitte jamais non plus, mon fils. Les copies que j'en ai fait faire sont pour rester toujours auprès de mes autres enfants. Je vous répète, et à eux, que sans elle, j'aurais sans doute fini assassin et suicide. Puissiez-vous, vos frères et vous, recevoir d'elle la leçon de foi dans la Providence et d'acceptation du danger certain qu'elle m'a donné dans une heure affreuse.